Il y a une semaine prenait fin la trêve hivernale, mesure entrée dans la loi française en 1956. Depuis revient la crainte des locataires de se voir expulsés d'un logement dont ils n'auraient pas payé le loyer. Crainte malgré la loi Dalloz pour droit au logement opposable, un texte voté en 2007 pour permettre aux personnes dites mal logées de trouver un toit via une commission de médiation départementale. Mais comment cette loi est-elle appliquée sur le terrain ? La Fondation Abbé Pierre nous indique dans son rapport annuel que 4 millions de personnes demeurent mal logées ou privées de domicile. Autre préoccupation, celle des bailleurs sociaux. Depuis l'annonce de la diminution des APL et des loyers, les offices HLM et certaines municipalités, comme Rennes, alertent sur les conséquences possibles en termes de rénovation et de construction de logements accessibles aux plus précaires. Des collectivités locales, villes, départements, régions en prise directe avec ces questions de solidarité et de dignité humaine qui agissent de manière différente selon les orientations politiques de leurs élus et la démographie du territoire. Collectivités territoriales, droits de l'homme et droits au logement opposable, on en parle tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invité aujourd'hui est Pierre-Édouard Veil, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale et vous répondrez aux questions de Colette David pendant une heure. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à vos côtés, évidemment, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Pierre-Édouard Veil, pour votre essai sur la genèse et la mise en œuvre de la loi Dalloz, Dalloz pour droit au logement opposable, vous avez repris le titre du beau film d'Agnès Varda, « Sans toi ni loi ». Dans ce film, on suivait l'errance d'une jeune vagabonde, interprétée par Sandrine Bonner, dans les squats, les gares, sur les routes. Sa vie jusqu'à sa mort, seule, une nuit d'hiver dans un fossé dans le sud de la France. Ce film est sorti en 1985. Sans toi ni loi, vraiment. Vous avez rajouté au titre un point d'interrogation, vous posez la question. Car on vient justement de célébrer les 10 ans de la loi Dalloz, votée en mars 2007, entrée en vigueur en janvier 2008. Cette loi a permis de loger ou reloger plus de 110 000 familles, mais des milliers d'autres, pourtant prioritaires, qui ont réussi à faire condamner l'État, n'ont toujours pas accès à un logement décent. Alors le Dalloz, est-ce une grande loi aux résultats décevants ? Mais pour commencer peut-être sur une note optimiste, qu'est-ce qui a bien fonctionné avec cette loi ?
Alors, pour commencer, je voulais vous remercier de rappeler que j'avais volé le titre de mon livre à Agnès Varda. Vous le dites publiquement, j'ai jamais eu de problème jusqu'ici. J'espère que voilà, enfin qu'elle ne se réveillera pas maintenant. En ce qui concerne plus sérieusement les effets de la loi Dalloz et notamment plutôt ses effets pervers, voire ses limites. Alors on me reproche souvent d'insister là-dessus, mais il se trouve que la loi Dalloz a tout de même permis à plusieurs dizaines, milliers de ménages qui se trouvaient exclus de l'accès au logement social de parvenir enfin à trouver un logement. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et ce que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est qu'il y a à la fois des gagnants et des perdants dans l'application de cette loi, et sans doute plus de perdants.
Oui, mais
gagnants.
Oui.
Alors, on y reviendra. Avant de rentrer dans dans cette évaluation des effets positifs et des effets négatifs, voire pervers, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur comment vous avez travaillé ? Parce que je trouve que l'intérêt de ce qui est une thèse au départ, hein, l'intérêt de cette thèse, c'est qu'elle s'empare de ce sujet très complexe, incroyablement complexe, en multipliant les portes d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs concernés, tout en haut, au sommet de l'État, et tout en bas, les demandeurs, et avec évidemment plein d'échelons intermédiaires dans un contexte décentralisé, etc. Donc comment on fait pour s'attaquer à ce type d'action publique complexe ?
Alors justement, ma démarche, elle diffère elle diffère de, d'une démarche d'évaluation telle qu'elle a pu être pratiquée par des instances nationales dont le rôle est précisément d'évaluer les effets de l'application d'une loi. En fait, moi je me suis tout d'abord intéressé aux logiques de la création de cette loi, d'où le sous-titre de mon livre « Genèse et mise en œuvre de la loi Dalloz ». Et la première porte d'entrée par laquelle je suis entré, où j'ai essayé d'ouvrir, c'est justement celle de la création de cette loi, des logiques qui ont pu présider à la formulation d'une loi qui a été présentée comme une transformation légale majeure dans le domaine de la lutte contre le logement des personnes défavorisées, mais qui, on y reviendra, n'a pas eu nécessairement les effets escomptés par ceux qui en avaient promu le projet dans l'espace public tout au long des années 2000. Alors, pour commencer par le début, par mon enquête sur la genèse de la loi Dalloz, en fait, je suis d'abord allé voir l'ensemble des représentants d'associations qui avaient pu, depuis le début des années 2000, promouvoir ce projet d'opposabilité.
C'est les enfants
du relogement.
De Quichotte,
alors justement, non. Le piège, non. En fait, le piège médiatique, entre guillemets, ce serait de croire que la loi Dalloz a été inventée ou ne serait-ce que défendue pour la première fois par les enfants de Don Quichotte. Alors, absolument pas. En fait, la loi Dalloz, le père de la loi Dalloz, il s'agit de Paul Bouchet, qui est toujours président d'ATD, enfin, n'est plus, pardon, j'ai peur de faire une erreur, président d'ATD Quart-Monde, qui a porté, en fait, ce projet depuis le début des années 2000 au sein du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, une instance nationale qui avait été créée sur mesure au tout début des années 90 pour l'abbé Pierre. Mais la mobilisation des enfants de Don Quichotte de l'hiver 2006 a joué un rôle d'accélérateur de l'histoire, en quelque sorte. Il faut replacer cette mobilisation dans son contexte électoral. En fait, on est à la fin de l'année 2006, c'est une année de campagne présidentielle, et il se trouve qu'il y a eu une jonction entre une forme de coalition, d'associations, mais aussi d'élus politiques de droite et de gauche qui défendaient le projet d'opposabilité du droit au logement depuis le début des années 2000, avec cette mobilisation particulièrement médiatique, particulièrement spectaculaire, particulièrement réussie de ce point de vue, qui a fait que le droit au logement a été porté par cette association, donc ce mouvement des enfants de Don Quichotte, comme première revendication. En fait, la loi Dalloz a été énoncée comme premier article de la charte des enfants de Don Quichotte, des enfants du canal, excusez-moi, que les leaders de l'association, Augustin Legrand en particulier, ont tâché de faire signer à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2007.
Bienvenue en France !
Un campement de SDF en plein cœur de Paris, sous l'œil étonné des touristes. Au total, une centaine de tentes installées pour les sans-abri, mais également pour les bien logés. Pour eux, c'était l'occasion de partager pendant une nuit ou deux des conditions de vie difficiles. Augustin est à l'initiative de ce projet. Choqué de voir tant de SDF délaissés, il lance un appel à tous les citoyens.
Je pense que sur 56 millions d'habitants, on peut être vraiment plusieurs milliers à camper par solidarité et donner deux nuits de notre temps pour les SDF. C'est une méthode pour contester et pour demander à l'État, exiger de l'État ce qui s'occupe de ces gens. Voilà.
Ce droit au logement opposable, ça veut dire que pour les gens démunis, pour les gens dans le besoin, pour les gens à la rue, ils peuvent pas seulement se tourner vers l'État, mais contre l'État. C'est ça que ça veut dire. C'est le recours à la justice administrative pour faire entendre sa demande.
Alors en fait, ça, le caractère profondément innovant de cette loi, qui a d'ailleurs pu être reproduit dans d'autres domaines de l'action publique, en fait, c'est la possibilité de recours à la justice qui doit permettre de formuler juridiquement un besoin de logement. Et à travers l'accumulation en fait du recours à la justice, finalement, il s'agit d'une opération vérité, pour reprendre les termes de Paul Bouchet, donc l'inventeur du Dalo. Il s'agit de révéler à travers la multiplication des recours à la justice individuelle l'ampleur des besoins de logement des personnes défavorisées. Sauf que, dans les faits, c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Christian.
Alors, oui, ce que vous dites montre bien qu'il y a quand même une rupture assez, assez forte dans la façon de concevoir l'action publique. Face au problème du mal-logement, quelques décennies auparavant, on avait répondu avec un autre instrument qui était... je ne suis pas spécialiste, mais enfin, en gros, la planification de logements, la construction, etc. On pourrait dire l'offre, en quelque sorte, et disant, bon, voilà, on construit des logements, et puis les gens y viendront. Or, là, on a recours à une autre procédure qui consiste à passer par le juge, en fait. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou...
Alors, le juge, pas forcément, je vais y revenir après, parce qu'il y a de nombreux filtres, en fait, à l'accès à la justice. Enfin, un filtre en particulier, les commissions de médiation, mais ça, j'y reviendrai après. En fait, la rupture fondamentale qui s'opère à travers la mise en œuvre de cette loi, c'est qu'on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat fondée sur le recours à la justice. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passait avant ? Vous aviez ce qu'on appelle les plans d'action pour le logement des personnes défavorisées, une forme de planification qui incluait des accords collectifs départementaux à travers l'application desquels devait s'opérer le logement des personnes défavorisées. Ça, c'est ce qui a été mis en place après 1998 dans le cadre de la loi Exclusion, qui avait été elle aussi obtenue comme résultat de mobilisation associative, notamment de la TD Quart-Monde. Alors, ce qui se passe avec le Dalo, et c'est ça finalement qui a retenu l'attention de certaines personnalités politiques, y compris de droite, qui y ont vu l'avènement, la possibilité d'avènement d'une culture du résultat dans l'action publique en faveur du domaine du logement des personnes défavorisées et plus largement dans le domaine des politiques sociales. Des personnalités politiques comme... Jean-Louis Borloo, mais aussi Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, en 2007, est le premier des candidats à l'élection présidentielle qui va évoquer précisément le droit au logement opposable et qui va l'inclure dans son programme. Parce que Henri Guénaud, à l'époque, avait...
Rappelez qui est Henri Guénaud.
Henri Guénaud, donc... qui, en gros, pour caricaturer, enfin, Christian Lebart.
On va dire proche de Nicolas Sarkozy.
Un proche conseiller qui écrivait notamment une partie de ses discours, si je ne m'abuse. En fait, voilà, lui avait conseillé d'inclure le Dalo dans son programme parce que, d'un côté, c'était une forme de, une forme d'accès au droit individuel.
C'est selon les cas, selon les dossiers. C'est ça que vous voulez dire?
En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de la campagne, pour revenir en 2007 à la campagne présidentielle, la querelle qui avait opposé Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, la colère saine de Ségolène Royal, elle portait précisément sur cette question de l'accès au droit, de l'accès à la justice, dans le domaine de la scolarisation
des enfants handicapés.
Finalement, le Dalo, c'est exactement le même principe. Dans le sens, voilà, enfin,
les droits créances, ce qu'on appelait droits créances.
Les droits créances avec des dispositifs de justiciabilité qui n'existaient pas auparavant.
Vous nous dites ça.
Et une forme de révélation des besoins d'action publique révélée donc, par le recours à la justice. Finalement, il y a une forme d'activation par le recours à la justice des usagers des politiques sociales. Des cibles.
Et alors, du coup, je comprends mieux le lien avec la droite, parce que est-ce que ça témoigne pas d'une certaine méfiance à l'égard, au fond, c'est un discours politique ou une posture politique qui témoigne d'une certaine méfiance à l'égard de l'administration d'État sur le mode, les fonctionnaires ne sont pas capables de, avec tous les moyens qu'on leur donne, de donner des logements à tous, etc. Donc, toc, on va leur mettre les juges sur le dos et l'obligation sera une obligation de résultat et plus seulement de moyens. Donc alors, ça participe un peu d'une culture de méfiance à l'égard des acteurs classiques de l'action publique.
Je dirais presque plus une méfiance à l'égard des collectivités locales.
Et des collectivités locales.
en particulier, et des bailleurs sociaux. Mmh. Parce que finalement, ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, et notamment dans l'analyse de la genèse de la loi d'Allo, c'est que c'est une politique d'État en alliance avec les associations contre les collectivités locales et les bailleurs sociaux, dont il s'agit de révéler les carences, notamment en matière de production et plus encore d'attribution de logements sociaux, à travers une révélation des besoins prioritaires et urgents. Finalement, la loi d'Allo, elle doit permettre, c'est ça l'obligation vérité dont je parlais tout à l'heure en citant Paul Boucher, il s'agit de montrer que les acteurs locaux du logement social, sachant que les politiques de l'habitat social sont particulièrement exemplaires du processus de décentralisation, de délégation des compétences aux collectivités, il s'agit de montrer que finalement, elles n'ont pas fait leur travail.
Vous avez, là, vous venez de parler de sélection et de tri des ayants droit.
Ouais.
Alors, racontez-nous comment ça se passe. Et après, on verra aussi la position des sociétés HLM, des élus locaux, etc.
Alors, précisément, je vous disais tout à l'heure qu'il existait une sorte de filtre, même si on n'appelle pas ça exactement comme ça dans le langage des acteurs des politiques de l'habitat, à savoir les commissions de médiation d'Allo, qui vont rassembler à la fois des représentants de l'État, des associations, des élus locaux et des bailleurs sociaux. Donc ces commissions qui sont mises en place au niveau du département, elles ont pour tâche de statuer sur la validité des recours au droit au logement opposable des requérants et de leurs ménages. Mmh. Elles doivent statuer sur le caractère prioritaire et urgent, pour reprendre les termes des décrets d'application de la loi, de la situation des ménages. Alors, il se trouve que depuis les débuts de la mise en œuvre de la loi, le taux de validation des recours, le taux de ménages déclarés comme étant dans une situation prioritaire et urgence, a eu tendance à diminuer. À l'heure actuelle, il me semble que pour l'année 2016, on est à 29%, donc un pourcentage qui stagne depuis des années. Sachant qu'en 2008, ce pourcentage était supérieur à 40%. Donc il a progressivement diminué avant de se stabiliser dans les années 2010.
Mais donc sur quels critères ?
Alors les critères, ça me permet de faire un lien avec la genèse de la loi, ou plutôt avec la fin de la genèse de la loi, ou plutôt l'écriture de ces décrets d'application. Il se trouve que, on dit souvent que le diable est dans les détails, en fait la portée de la loi d'Allo a été fortement limitée par les décrets d'application de la loi qui établissent des conditions d'éligibilité au dispositif. Alors, il faut soit être dépourvu de logement, soit faire l'objet d'une procédure d'expulsion, soit subir un délai d'attente anormalement long. Enfin, tout un ensemble de conditions auxquelles s'ajoute en fait la possibilité d'une marge de manœuvre en fait pour ces acteurs des commissions qui peuvent d'une certaine manière faire fi de ces critères pour refuser de considérer les ménages comme étant dans une situation d'urgence, soit les réorienter vers l'hébergement.
Et est-ce que ces commissions tiennent compte de l'offre de logement disponible ?
Alors justement, de nombreux rapports d'évaluation de la loi. Il faut savoir que la loi d'Allo est une des lois les plus fortement évaluées qui soient. Ils ont dénoncé en fait cette prise en compte de l'offre de logement disponible par les commissions de médiation. Alors, cette prise en compte de l'offre, on peut dire que c'est une forme de résistance de la part des élus et des bailleurs sociaux qui s'avère néanmoins relativement dominée dans le cadre de ces commissions. Mais ce qu'il faut savoir, et là encore ça permet de faire un pont avec la genèse de la loi, c'est que dès le départ, ou même en amont de la création de cette loi, les collectivités locales, pour l'essentiel, et les bailleurs sociaux, pour la très grande majorité, étaient profondément hostiles à un tel projet de loi.
Pour quelles raisons ?
Pour résumer et pour forcer un petit peu le trait, pour des élus locaux, il n'y a pas vraiment d'intérêt à accueillir des populations démunies qui, pour la majorité des ménages concernés, n'ont pas la nationalité française, pour une petite majorité des ménages de requérants. En ce qui concerne les organismes de logement social, il se trouve que on est dans un mouvement qui tend à s'accentuer depuis maintenant plus de deux décennies de résidualisation des HLM. Et de plus en plus, et c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans, les organismes HLM en ont marre d'être considérés comme des logeurs de pauvres.
Et donc ils ont vu le DALO comme un accélérateur de ghetto.
Absolument. En fait, la critique des effets de ségrégation urbaine formulée à l'encontre de la loi et des effets de son application, elle existait avant même que la loi n'existe. Elle existait déjà à l'époque où la loi n'était qu'un projet éventuellement expérimentable. Donc c'était une critique qui était portée notamment par François Pupponi, député, maire de Sarcelles, président de l'ANRU. Une critique portée par des élus de communes populaires en particulier, aussi bien de droite que de gauche.
Régulièrement, certains élus d'Île-de-France déplorent que les préfets attribuent les logements sociaux des quartiers sensibles à des bénéficiaires du droit au logement opposable. Selon eux, cela contribue à ghettoiser les quartiers, à rassembler les personnes les plus démunies au même endroit.
Ces commissions, elles sont locales, elles sont
des commissions départementales.
Elles sont structurées à l'échelle du département.
Sachant que le département, en fait, l'échelle du département, elle est logique dans la mesure où le département a souvent, depuis le début du processus de décentralisation, c'est le département qui a le leadership dans le domaine des politiques sociales. Et c'est aussi l'échelle privilégiée d'intervention de l'État dans ce domaine. Notamment à travers
l'action du préfet. Donc sous l'autorité du préfet, voilà. Plus que des conseils départementaux.
En fait, d'une certaine manière, la mise en œuvre du DALO, elle va opposer le préfet, qui va être le garant de l'obligation de résultat, aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux. Sachant que le préfet va pouvoir s'appuyer dans la mise en œuvre de la loi sur les associations pour reloger des ménages qui vont être, pardonnez-moi l'expression, enfin triés sur le volet.
Parmi les pauvres, on choisit les meilleurs clients selon les... C'est ça que vous voulez dire ?
Vous parlez même de morale familiale.
Oui, alors on va retrouver des formes de jugement moraux, mais aussi des formes d'appréciation de la situation économique des ménages qu'on retrouve dans l'application d'autres politiques sociales. La mise en œuvre des politiques sociales et familiales de manière générale. Alors, ce qui est relativement étonnant, c'est que parmi les critères définis dans les décrets d'application de la loi, on n'a pas de critères relatifs à la situation économique des ménages ou à la composition familiale de ces ménages. Or, ce que j'ai pu montrer à travers l'analyse statistique de décisions ces commissions dans différents départements, c'est que le revenu ou l'activité professionnelle des ménages va fortement peser sur l'issue des recours. Alors, d'une part, parce que des ménages avec certaines caractéristiques vont être plus fortement en capacité de faire valoir leurs droits.
C'est-à-dire expliquer, parce que ça c'est très...
D'autre part, parce que la commission va traiter leur situation différemment. Alors j'ai essayé de... Justement, ça renvoie à la question des méthodes. J'ai essayé d'observer l'application de la loi, aussi bien du point de vue des requérants, voire de leur ménage, que du point de vue de l'administration des différents partenaires de l'action publique impliqués dans leur tri. Alors, si on se place du point de vue des ménages, ce que j'ai pu mettre en valeur, en fait, c'est trois types de requérants qui correspondent à différentes situations en matière de logement, différentes configurations de propriété sociale, mais aussi à différentes manières de faire valoir ses droits. Je peux peut-être détailler un tout petit peu
volontiers.
Ma typologie très rapidement. Alors, ce que j'ai distingué tout d'abord, c'est des requérants que j'ai qualifiés de marginalisés. Alors, il s'agit le plus souvent d'hommes seuls, dépourvus de logement, ou hébergés dans des CHU, des centres d'hébergement d'urgence, dépourvues d'activités professionnelles et parfois même de ressources lorsqu'elles ne se limitent pas au RSA socle. Alors il se trouve que ces individus vont être très largement exclus de l'accès au droit au logement opposable. Alors pour vous donner un chiffre un petit peu étonnant, mais pas tant que ça quand on y réfléchit, en fait ce que j'ai pu montrer, c'est que toutes choses égales par ailleurs, les SDF, donc les personnes dépourvues de logement, oui, et non hébergées dans des structures d'hébergement, leur situation va être déclarée prioritaire et urgente 3 fois moins que les autres.
Pourquoi ?
Parce que, du point de vue des commissions, il s'agit d'individus qui sont insuffisamment autonomes pour accéder au logement social. À l'inverse, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est des requérants que j'ai appelés les travailleurs pauvres. Là, on va avoir affaire, pour l'essentiel, à des familles, le plus souvent issues de l'immigration, notamment des dernières vagues migratoires, avec des couples biactifs, donc avec monsieur et madame
qui travaillent,
le plus souvent qui exercent des activités à la fois précaires et peu qualifiées, mais avec des revenus. Par ailleurs, vont avoir des enfants. C'est parmi cette catégorie qu'on va retrouver les grands ménages de 6 individus et plus. Il se trouve que, à la différence du précédent type, ces requérants vont plus souvent faire appel à des associations ou même à au travailleur social qui va les suivre pour être appuyés dans leur démarche d'accès au droit.
Pour monter les dossiers.
Ce qui va favoriser, d'accord, finalement, le traitement de leurs recours. Par ailleurs, un troisième type que j'ai distingué, ce sont des individus que j'ai appelés les déclassés. Donc, ce sont des individus qui vont faire face à le plus souvent à une rupture biographique, que ce soit la perte d'un emploi ou un divorce. En ce qui les concerne, disposer, enfin, de ressources supérieures à ceux du précédent type, même si ils ne travaillent plus. Qui vont leur permettre de faire valoir leurs droits de façon plus efficace que les individus du premier type.
Merci pour cette présentation, on va y revenir. On fait une pause musicale avec le groupe de Chemistry Set qui nous interprète « A house is not a motel ».
I've got no shackles, you can come and look if you want to. Through the holes you see the mantles, where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You were just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Yeah, yeah. Will be ringing more confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the water's turned to blood. And if you don't think so, go turn on your tap. And if it's mixed with mud, you see it turn to grey. And you can call my name. I hear you calling my name.
The Chemistry Set, A House Is Not A Motel à l'instant sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville. Nous consacrons cette émission du mois d'avril au droit au logement opposable. En première partie d'émission, nous sommes revenus sur la naissance de cette loi il y a une dizaine d'années. Une loi complexe dont notre invité nous explique le principe, les avantages et les effets plus pervers, comme par exemple la concentration dans les logements sociaux des personnes les plus précaires. Désormais en deuxième partie d'émission, nous allons évoquer le cas de Rennes, ville souvent citée en exemple en matière de politique de logement. Et quand on évoque le mal logement, on pense aussi aux minima sociaux. La question de la fraude sociale, c'est-à-dire la fraude aux allocations, sera évoquée dans les prochaines minutes avec notre invité Pierre-Édouard Veil, maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale. Il répond aux questions de Colette David et Christian Lebar.
Pierre-Édouard Veil, donc la question que je voulais vous poser, elle m'est inspirée par la carte que vous proposez dans votre livre et qui donne à voir d'assez significatives disparités départementales. On voit par exemple que l'Ille-et-Vilaine, pour prendre un peu paresseusement un exemple, l'Ille-et-Vilaine se caractérise par un nombre assez ténu, assez modeste de dossiers déposés, de plaintes formulées, comment vous l'expliquez ?
De recours déposés. Alors, de manière générale, vous avez raison d'insister sur l'inégale répartition de la masse des recours au droit au logement opposable, qui s'élève à l'heure actuelle à environ 750 000 recours déposés en plus d'une dizaine d'années d'application de la loi. Alors, ces différences de recours, j'ai essayé de les objectiver statistiquement, ces différences territoriales entre les départements. Alors, les deux principaux facteurs explicatifs de ces différences d'intensité de recours d'allo que j'ai réussi à mettre en valeur, c'est d'une part la cherté des loyers. Alors, je m'étais fondé sur des données de la FNAIM, de la Fédération nationale des agences immobilières, pour mettre en valeur ce premier facteur. Alors, le deuxième facteur particulièrement explicatif, il s'agit du taux de turnover les HLM. En fait, ces deux facteurs évidemment sont liés parce que dans un département où les loyers sont particulièrement chers, les gens qui disposent d'un logement social vont très fortement hésiter à en sortir, sachant que les politiques du gouvernement qui sont menées depuis plusieurs décennies visent à favoriser des parcours résidentiels de sortie des HLM des personnes disposant de revenus suffisants qui les rapprochent des classes moyennes. Alors, pourquoi est-ce que les recours se concentrent dans des départements comme ceux de Paris et de la Petite Couronne, ou encore dans les départements de la région PACA, et pourquoi, à l'inverse, on retrouve très peu de recours au DALO dans un département comme l'Ille-et-Vilaine, qui pourtant inclut une métropole aussi importante que Rennes. Ça tient donc à ces deux facteurs que j'ai précédemment énoncés, mais il s'agit quand même, si on veut rentrer dans le détail, de s'intéresser aux politiques locales menées en matière d'habitat social et d'attribution de logements sociaux. Alors il se trouve qu'on a affaire à un département, l'Ille-et-Vilaine, de faible intensité, c'est-à-dire qu'on a moins de 100 recours au DALO par an.
Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que, alors il y a probablement une volonté politique d'un côté, mais il y a aussi un tissu associatif qui peut-être privilégie des procédures d'accompagnement dans l'accès au logement qui sont un peu en deçà de ce qui serait un peu le dernier recours, c'est-à-dire le contentieux avec toute la violence symbolique qui l'accompagne.
Alors on peut penser qu'effectivement il y a sans doute un meilleur suivi en amont des ménages par les associations, mais surtout par les travailleurs sociaux, la collectivité territoriale. Ce sur quoi je voulais donner des précisions, parce que ça me semble particulièrement intéressant, c'est le discours qui va être tenu par quelqu'un comme Guy Potin, donc le vice-président de Rennes Métropole à l'Habitat, et le président de l'office public HLM, qui justement va dénoncer le fait que, le gouvernement va appeler d'une certaine manière à faire du DALO, alors que à Rennes, ils n'en ont pas besoin. Et un des effets pervers que ça va causer, c'est une limitation des dotations budgétaires qui vont être affectées à la construction de logements sociaux. Parce que le DALO va être institué en indicateur des besoins de logements prioritaires et urgents, ce qui va contribuer à invisibiliser finalement des besoins pourtant existants et révéler
mieux pris en charge,
mieux pris en charge exactement au niveau d'une métropole comme Rennes.
Construction, réhabilitation du parc HLM sur la métropole rennaise, une association de locataires comme la CNL reconnaît le travail accompli mais invite à poursuivre l'effort. 13 000 personnes sont encore sur liste d'attente, souligne l'association. Et avec la crise, la demande ne risque pas de se tarir.
Alors là, on voit bien le jeu très compliqué entre l'État, qui au fond a le beau rôle, hein, qui met la barre très haut et qui dit au fond aux collectivités, débrouillez-vous.
C'est un petit peu ça. Il faut savoir que depuis la réforme de 1977, particulièrement centrale dans l'évolution des politiques du logement, on a assisté à une disparition progressive des aides à la pierre, donc distribuées au département et déléguées aux collectivités territoriales pour produire du logement social.
Vous nous faites, s'il vous plaît, un petit bilan en chiffres, en disant ce qui s'est passé, les recours.
À l'heure actuelle, on pouvait donner... c'est des chiffres qui sont publiés tous les ans par le Comité pour le logement des personnes défavorisées. À l'heure actuelle, on peut penser, en se basant sur les données du rapport de 2017, qu'un peu plus de 750 000 recours ont été déposés. On a un taux de validation de ces recours d'environ 30%. Un peu plus de 200 000 ménages ont été déclarés comme étant dans une situation prioritaire et urgente. Et il reste actuellement environ 60 000 ménages de requérants qui n'ont pas été relogés, malgré en fait la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de leur situation. Et parfois, pour une majorité d'entre eux même, malgré une condamnation de l'État, précisément du préfet. Donc on a environ 60 000 ménages qui restent, entre guillemets, sur le carreau. Ce qui fait d'ailleurs l'objet désormais d'une procédure de recours indemnitaire portée par les associations, notamment la Fondation Abbé Pierre, depuis le début des années 2010. Et ce qui a aussi fait récemment l'objet d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.
Pour qu'on comprenne bien, le droit au logement est opposable à l'État.
Oui.
Donc tout à l'heure, quand on parlait de rapport de force entre... donc c'est l'État qui met la barre très haut, mais c'est aussi l'État qui... Bon, alors je fais une demande je fais un recours, je gagne face au juge administratif. Concrètement,
on aura peut-être dû
quelle est la décision du juge administratif? À qui est-elle?
C'est ça. En fait, une fois que la décision de validation du recours a été prise par la commission, le préfet va disposer de 6 mois pour reloger le ménage en question, donc pour mettre la pression sur les bailleurs sociaux pour qu'ils acceptent de reloger les ménages. Au-delà de ce délai de 6 mois, en fait, le requérant est en mesure légalement de saisir le tribunal administratif. Alors des recours au tribunal administratif, on en a évidemment beaucoup moins que des recours auprès des commissions de médiation. On a environ une dizaine de milliers de recours spécifiques, donc c'est devenu en fait une procédure, c'est devenu la deuxième source de contentieux administratif après le droit d'asile, le DALO, mais on constate une forme de double filtrage, finalement, du recours au tribunal. D'une part, les commissions vont valider moins d'un tiers des recours. D'autre part, parmi les personnes qui vont être déclarées dans une situation prioritaire urgente, certains ne vont pas poursuivre leur démarche jusqu'au tribunal, quand bien même ils n'ont pas été relogés, malgré la reconnaissance de leur situation.
Sale temps pour les pauvres. On l'a compris,
ça dépend
Monsieur
lesquels.
Veil, en vous écoutant évoquer le DALO. Mais un autre exemple, vous avez récemment travaillé sur les contrôles mieux organisés et plus sévères vis-à-vis des allocataires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette lutte contre la fraude sociale?
Ce que j'ai pu montrer avec Vincent Dubois et Morgane Paris dans le cadre d'un rapport pour la Caisse nationale des allocations familiales qui a été largement repris par le défenseur des droits lors de son dernier rapport fin 2017 sur cette lutte contre la fraude sociale, c'est qu'on assiste à une surexposition aux contrôles et aux sanctions des plus précaires, qui sont aussi les plus dépendants des prestations sociales et familiales, et cela notamment à travers la mise en œuvre de nouveaux instruments de contrôle.
C'est-à-dire ?
des instruments statistiques en particulier qui vont permettre un ciblage plus efficace des populations à risque, entre guillemets. Et par ailleurs, comme pour le DALO, comme dans d'autres domaines des politiques sociales, on assiste à un processus de judiciarisation dans le sens où de plus en plus d'allocataires des prestations sociales et familiales vont faire l'objet de jugements, à la fois dans le cadre de procédures civiles et pénales, pour des faits...
C'est quel type de fraude ?
Qualifié de fraude.
C'est quoi une fraude ?
Déjà, on pourrait commencer par parler par des prestations les plus fortement concernées. Alors, il s'agit principalement du RSA et des APL. Ces prestations, elles vont être perçues de façon frauduleuse lorsqu'on peut qualifier l'intention des allocataires de les percevoir alors qu'ils n'auraient pas dû les percevoir.
Depuis 3 ans maintenant, la CAF pratique ce qu'on appelle le data mining. Concrètement, ça consiste à recouper par ordinateur des données de différents organismes comme les impôts, Pôle emploi, l'assurance maladie ou encore les fichiers des banques. La CAF compare ensuite toutes ces informations et dès qu'il y a une incohérence, comme des revenus par exemple qui semblent plus élevés que ceux qui ont été déclarés à la CAF, le système fait ressortir le dossier suspect et ça déclenche un contrôle.
En vous écoutant et peut-être aussi en passant d'un exemple à l'autre, au fond aussi entre deux je vais formuler ça un peu en pensant à Michel Foucault, c'est-à-dire deux conceptions de l'État face aux plus démunis, c'est-à-dire une conception d'un État... j'ai envie de dire hyper malin, qui est capable d'aller traquer dans les stratégies de fraude des plus démunis, ce qui suppose des capacités à surveiller, à investiguer, à enquêter, à contrôler. Enfin voilà, un État tatillon qui aime à emmerder les humbles. Et puis de l'autre, un État qui, à l'inverse, pêche parce qu'il n'arrive pas à avoir prise sur une population, je crois que dans le cas du DALO, c'est aussi souvent le cas, c'est-à-dire qui n'arrive pas à avoir prise sur des populations qui ne sont pas en mesure de monter des dossiers, qui échappent à l'encadrement associatif ou des travailleurs sociaux, et qui, du coup, y a beaucoup de politiques sociales qui trouvent leurs limites là-dedans, c'est-à-dire, et qui, du coup, relèvent de ce qu'on appelle le non-recours au droit. C'est-à-dire, on nous dit beaucoup que l'État perd de l'argent par la fraude, mais l'État en gagne aussi beaucoup par le fait qu'il y a énormément de gens qui pourraient accéder à des prestations sociales, qui ne le savent pas, qui n'ont pas ce que vous appelez très joliment ce capital procédural, c'est-à-dire cette capacité à peut-être j'interprète un peu librement, mais à monter des dossiers. Alors voilà, entre ces deux visions-là, est-ce que j'ai tort d'avoir ces deux visions-là en tête ?
Non, pas du tout. Alors en ce qui concerne le DALO, c'est vrai qu'on peut mettre en perspective le nombre de recours avec...
Les
données qui sont publiées tous les ans par la Fondation Abbé Pierre, plus de 4 millions de mal logés. Alors, c'est peut-être un petit peu légèrement différent ce qui concerne la lutte contre la fraude aux prestations sociales et familiales, mais on va constater là aussi un décalage très important entre l'ampleur, le montant des prestations finalement qui ne sont pas distribuées alors qu'elles devraient l'être, et celles qui sont distribuées de façon indue. Alors, pour vous donner un chiffre, en fait, si on prend les prestations sociales et familiales dans leur ensemble, tous les ans, on aurait environ 6 milliards d'euros de prestations qui ne seraient pas distribuées, quand bien même les ménages qui devraient les recevoir répondent à la condition d'éligibilité. Alors que le montant des prestations versées de façon indue, il s'élève à un peu plus de 3 milliards d'euros selon les estimations.
Donc l'État est gagnant alors.
Ah, absolument. Alors justement, ce qui va être invoqué par les promoteurs de ces politiques de contrôle, c'est la possibilité de lutter contre le non-recours à travers la mise en œuvre d'instruments, notamment statistiques, de contrôle, de surveillance des populations pour leur permettre de mieux accéder de façon automatique à leurs droits. Donc c'est un des arguments qui est invoqué. La nature des instruments qui sont déployés fait que ils servent plutôt à lutter contre les versements indus que pour permettre ce qu'on appelle des rappels de droits, des rappels de prestations. Par ailleurs, cette fraude, son intentionnalité, elle va être caractérisée dans le cas de commission départementale, là encore, comme pour le DALO, dont le fonctionnement, d'ailleurs, n'est pas sans rappeler celui des commissions que j'ai pu observer dans le cadre de la mise en œuvre du DALO. On a là aussi affaire à des commissions départementales qui vont statuer sur l'intentionnalité de la fraude, qui vont rassembler différents acteurs représentant des collectivités territoriales, de l'État, des associations.
Votre rapport a été largement repris par le Défenseur des droits, qui justement, je crois, demandait la reconnaissance du droit à l'erreur, que les gens puissent se prévaloir de ça.
Un droit à l'erreur qui pourrait être invoqué dans le cadre des procédures judiciaires qui vont être engagées contre elle, sachant que, là encore, les commissions départementales, les commissions administratives, qui jouent un rôle de filtre du contentieux, ont là encore tendance à limiter le nombre de contentieux.
D'accord.
Christian. Alors peut-être une dernière question. Cette émission s'appelle Chercheur en ville. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'impact qu'a eu votre travail sur le monde des professionnels de ce secteur? Est-ce qu'il a lu? Est-ce que votre travail est lu? Est-ce qu'il a circulé? Il y a par ailleurs des rapports de recherche aussi sur ces sujets. Est-ce que les politiques, ça les intéresse? Est-ce que vous avez été auditionné ou des choses comme ça?
Alors il y a de façon assez limitée en fait. J'avais tenté un petit coup médiatique en sortant mon livre 10 ans pile après, pour les 10 ans de l'anniversaire de la loi DALO. Alors il se trouve que mon petit coup médiatique n'a pas forcément eu le succès escompté dans le auprès des professionnels de l'habitat. Alors c'est peut-être lié au fait que si j'avais voulu que mon travail ait une portée plus large, j'aurais dû faire sans doute un peu plus alliance avec des associations avec lesquelles j'étais en contact et au sein desquelles j'ai parfois même travaillé dans le cadre de ma thèse, avec lesquelles j'ai eu certains désaccords, on va dire, notamment en ce qui concerne la participation en tant que partenaire à la mise en œuvre d'une politique qui, si elle grandit leur cause... à ces associations, ne va pas toujours avoir les effets escomptés. Par ailleurs, il se trouve que finalement, là où mon travail a eu sans doute le plus d'écho, c'est auprès des organismes HLM. Alors, il se trouve que j'ai bénéficié d'une subvention à la publication de la part de l'Union sociale pour l'habitat.
De combien?
Pour la publication du livre. Ça reste assez modeste, hein, c'est 5 milliers d'euros. Mais il se trouve que finalement, mon travail, notamment en ce qui concerne la mise en valeur des faits de ségrégation urbaine, va plutôt dans le sens des craintes qui avaient été formulées par les représentants des collectivités ou des bailleurs sociaux au niveau national. Mon travail peut aussi contribuer à dénoncer certains abus en matière de limitation de l'accès au droit au logement de populations particulièrement vulnérables. Je parlais tout à l'heure des sans domicile fixe qui se trouvent doublement disqualifiés, dans le sens où leur droit n'est pas reconnu, quand bien même ils répondent aux critères d'éligibilité de la loi.
Pierre-Edouard Veil, les auditeurs et les auditrices de Canal B pourront retrouver votre texte très intéressant, Genèse et conditions de mise en œuvre de la loi DALO, publié par les presses universitaires de Rennes l'an dernier, et il coûte 22 euros. Merci de nous avoir accordé cet entretien. La prochaine émission de Chercheurs en ville aura lieu en mai.